France Musique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième édition de Musique et Moi spéciale confinement, avec de nouveau cette semaine toute une série de témoignages d'invités qui ont bien voulu se livrer à l'exercice de nous dire comment ils vivent le confinement, l'isolement, le silence et les questions que ce temps d'arrêt suscite, ainsi que les musiques qui agrémentent ce mode de vie transitoire. Avec nous donc aujourd'hui Macha Merrill, Bertrand Perrier, Françoise Nyssen, Patrick Poivre d'Arvor, Cynthia Fleury, Laurent Sexic, Anne Sinclair, Olivier Mantelli et Marc Lévy qui nous donne à entendre le confinement depuis New York. Bienvenue donc à toutes et à tous. Et pour commencer, je vous donne ma musique de confinement de cette semaine, le concerto pour violoncelle numéro 1 de Saint-Saëns. Virtuose, dont le premier mouvement est particulièrement fougueux, emporté, passionné, et je note d'ailleurs la forte présence de cet instrument cette semaine. Alors est-ce parce que son timbre, si proche de la voix humaine, nous raconte que nous sommes beaucoup à la recherche de la chaleur vocale directe, celle qui se souffle presque dans notre oreille, j'aurais envie de dire même avec les yeux. En tout cas, Rostropovitch remplit ici bien cette mission, dans la proximité qu'il sait mettre entre lui, son émotion, son violoncelle et nous. Musique et moi, c'est jusqu'à midi et demi sur France Musique et francemusique.fr. Thank you. Mstislav Rostropovitch interprète ce premier mouvement du concerto pour violoncelle numéro 1 en la mineur opus 33 de Camille Saint-Saëns avec l'Orchestre symphonique de la radio de Moscou sous la direction de Grigori Stoliarov.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Il est passionné de musique, la commente, en prescrit régulièrement sur sa page Facebook et l'analyse avec beaucoup de talent d'ailleurs. Le politologue, essayiste, professeur à Sciences Po et HEC et président de CAP, un cabinet de conseil et d'analyse pour les grandes entreprises, Stéphane Rosès, a la sensibilité de ceux qui écoutent le monde avec beaucoup d'acuité. Voilà pourquoi j'ai voulu lui demander s'il y avait une musique particulière qu'il écoutait par ses jours troublés. Le voici.
Le confinement est une épreuve et une chance. En limitant le possible, il ramène le souhaitable à l'essentiel. La vie, la mort, la frugalité, le beau, l'amour, les communs de la société. Le confinement isole géographiquement des autres, mais nous relie par ce retour aux fondamentaux individuels et collectifs. Le confinement suspend le temps. Il appelle à la méditation, à la contemplation des choses simples qui nous entourent et de la nature. Bach m'a toujours accompagné dans les joies et épreuves, et j'ai la chance de savoir qu'il m'accompagnera avec ceux que j'aime jusqu'au bout, en pensée. Anne Kefelec a fait une interprétation des pièces de Bach qu'elle a intitulée justement « Contemplation ». Contemplation, car nous ne sommes pas maîtres et possesseurs de la nature, des choses et des êtres. Nous ne pouvons que les contempler. Bach est universel, il traverse l'espace et le temps, car son écriture contrapuntique est une conversation entre la vie et la mort. La moitié de l'humanité est aujourd'hui confinée, et à n'importe quel moment où j'écoute Bach, quelqu'un ailleurs, dans le monde, fait de même. Voilà Bach, donc, interprété sobrement par Anne Kefelec dans ce choral extrait du petit livre d'orgue BWV 639 « Ich rufe zu dir, Herr Jésus-Christ »« Je t'appelle Jésus-Christ ». Au fond, peu importe qu'on appelle ou non Jésus ou quelqu'un d'autre, qu'il réponde ou non, on appelle. On s'élève de notre condition humaine et on se relie aux autres. Notre confinement intérieur, notre pesanteur, permet cet état de grâce.
Thank you.
Ich rufe zu dir, Herr Jesus Christ, de Jean-Sébastien Bach, interprété par Anne Kefelek. La philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury, titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire national des arts et métiers, était venue nous rendre visite l'automne dernier. Elle publie beaucoup, beaucoup d'articles ces dernières semaines au sujet du confinement. Il me semblait donc important de l'entendre au sujet de la musique dans ces semaines où son activité semble avoir redoublé d'ampleur. Cynthia Fleury.
Alors c'est un exercice difficile pour moi. Je crois que le confinement a définitivement validé mon amusie. Je rêve de silence et de silence. Seulement le confinement familial oblige à supporter, à subir même, la musique des autres. Et c'est vrai que c'est une époque bizarre, car ceux qui veulent écouter la musique sont jugés libertaires, et ceux qui veulent écouter le silence sont jugés liberticides. Alors, je peux comprendre qu'on ait besoin de partager ce qu'on écoute, hein, je le comprends, mais je ne le goûte pas. Et d'ailleurs, ce qui est en jeu, le problème en tant que tel, ce n'est pas le goût de l'autre. Là, par exemple, un personnage de ma famille, que je ne nommerai pas, écoute le concerto en mi mineur pour violoncelle d'Elgar. Ça pourrait être pire. Eh bien, c'est quand même insupportable. Donc, ce n'est pas la qualité de la musique qui est en jeu, c'est la nécessité de silence. Et le confinement a, hélas, accentué chez moi cette nécessité. Le fait que les bruits sont moins assourdissants dans la rue est aussi quelque chose de précieux, et la délivrance du 11 mai va moins signer notre délivrance que celle du bruit des voitures, des machines, même si nous n'allons pas tout de suite retrouver la vie d'avant. Mais il est a priori certain que nous allons retrouver assez vite la pollution et le bruit d'avant. Alors, est-ce qu'écouter de la musique est agréable parfois pour moi? Oui. Quand c'est dans un casque, alors bien sûr c'est divin, surtout quand c'est dans le casque de l'autre, mais il m'arrive aussi d'écouter de la musique en marchant, d'où la difficulté, renforcée avec le confinement, puisque qui dit confinement dit absence de marche. Alors, pour ne pas totalement apparaître comme le dictateur que je ne suis pas, je peux tout de même expliquer en quoi le silence est une musique, celle de la respiration et de l'apaisement d'un logis, celle de la douce présence des autres, non intrusive, celle de la concentration du travail, celle du repos, et ce silence-là est une bénédiction. Hélas, aujourd'hui un luxe, une chance, parfois terriblement injuste. Et puis bien sûr, à tous ceux qui veulent découvrir Elgar, ne vous privez pas. Thank you.
Jacqueline Dupré interprète ce deuxième mouvement du concerto en mi mineur opus 85 d'Edouard Elgar avec l'orchestre de Philadelphie dirigé par Daniel Barenboim. Avocat et orateur de talent, pianiste et mélomane averti, Bertrand Perrier est aussi administrateur du Festival de Nohant en charge du jeune public et des jeunes interprètes. Alors depuis le début du confinement, il suit de très près tout ce qui se fait de manière tout à fait artisanale du côté d'Internet et des réseaux sociaux. Il nous livre ce matin sa musique de confinement à la recherche de nouveautés.
C'est vrai que cette période de confinement, d'un point de vue musical, est assez paradoxale. Parce que d'un côté, on n'a jamais eu autant de temps pour écouter de la musique enregistrée. C'est le moment où l'on peut revenir dans sa discothèque et y retrouver ses trésors que l'on n'écoute plus parce qu'on n'a plus vraiment le temps ou qu'on a oublié les disques que l'on avait et les enregistrements que l'on aimait. Mais d'un autre côté, ce qui manque cruellement, en tout cas pour moi, c'est le concert. C'est l'adrénaline de la musique vivante, celle qui se fait devant vous, pour vous, par des artistes en chair et en os qui se dédient dans l'instant avec l'adrénaline de ce moment de vérité qu'est le concert. Et ça, ça me manque cruellement. Et probablement, ça manque aussi aux artistes puisqu'ils ont trouvé une sorte de subterfuge pour nous permettre malgré tout de profiter de leur talent puisque Internet regorge désormais d'enregistrements faits par des artistes chez eux, soit collectivement, soit individuellement. Et c'est ainsi qu'on a découvert que c'était quand même très joli chez Renaud Capuçon. Et donc, quand Renaud Capuçon joue depuis chez lui, évidemment, il a un pianiste qui n'est pas chez lui, qui est enregistré. Et ce pianiste, c'est Guillaume Bellhomme. Et Guillaume Bellhomme n'est pas en reste puisqu'il a récemment publié sur son compte Twitter une vidéo prise également chez lui de l'enregistrement d'une petite pièce magnifique de Félix Mendelssohn, la Romance sans parole, opus 67, numéro 2. Alors, les romances sans paroles de Félix Mendelssohn, c'est une musique qui a mauvaise presse. Musique de pianiste, musique de salon, musique trop facile, trop sucrée, tout trop doucereuse. Eh bien, moi, je n'ai pas honte de le dire, j'adore ça. Et surtout, en période de confinement, ça me fait du bien. Parce que je trouve cette mélodie à la fois bondissante, spirituelle, magnifiquement harmonisée. Et puis, en même temps, un peu suspendue, un peu rêveuse, un peu nostalgique. Et j'aime bien ces sautes d'humeur qui sont un peu à l'image de ce que nous vivons quotidiennement dans ce confinement. Tantôt tragique, tantôt lyrique, parfois aussi un peu languide. Et je trouve que Guillaume Bellhomme rend magnifiquement justice à cette musique qu'il joue sans côté cliché, sans côté salonnard, sans vous tirer par la manche, avec ce qu'il faut de pudeur, d'élégance, de distance et de rigueur. Et puis une dernière petite anecdote, si vous allez voir cette vidéo, vous verrez que Guillaume Bellhomme joue juché sur un tabouret surmonté de deux coussins. Et donc, comme je le connais un peu, je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas un tabouret de pianiste classique. Eh bien, figurez-vous qu'il vient de déménager et qu'il attendait la livraison de son tabouret pour le lendemain du confinement et que donc il l'attend toujours. Raison de plus pour espérer un déconfinement rapide.
La romance sans parole numéro 2, opus 67 de Mendelssohn, interprétée par Guillaume Bellôme, confiné chez lui et diffusée gracieusement sur Twitter et Facebook.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Elle était venue participer à Musique et moi quelques semaines avant sa nomination comme ministre de la Culture en mai 2017. Et avait témoigné de son amour de la musique et de sa nécessité même de vivre en musique, je dirais. En témoigne d'ailleurs l'association qu'elle a fondée en 1984 avec son mari Jean-Paul Capitani, le Méjean, qui propose chaque année une riche programmation mêlant musique, arts plastiques et lecture. Voici Françoise Nyssen dans sa musique de confinement depuis son domicile à Arles.
Chère Elsa, la musique a toujours été pour moi vitale. Elle a marqué tous les événements de la vie. J'ai un souvenir des morceaux de musique que j'ai pu écouter et qui ont été symboliques des moments joyeux, des moments difficiles, des moments douloureux. Mais la musique a toujours été là et elle est en quelque sorte la mémoire de ces moments et elle a aussi aidé parfois à les traverser. Alors c'est vrai que quand l'annonce du confinement a été faite et que nous sommes trouvés dans cet état de sidération, de devoir tout fermer, tout arrêter et nous retrouver à la maison, à Arles, il y a plus malotie quand même que cela, mais pour autant, le fait d'être à la maison et de pouvoir écouter de la musique, nous l'avons fait de façon systématique, avec gourmandise, curiosité, inlassablement découvrant des morceaux de musique grâce à ces applications qui nous permettent de voyager sur l'univers des enregistrements qui existent. Enfin, c'est extraordinaire et on y était très, très attachés. Et puis, le fait est que la situation est telle que la préoccupation de la fermeture des librairies, de l'arrêt de l'activité dans le domaine de l'édition, la situation en général nous a vraiment amené à ne plus prendre le temps, ne plus avoir cette disponibilité là et je ne pourrais pas dire qu'il y a une musique du confinement, il y a eu au début beaucoup et puis voilà, ça s'est un petit peu effiloché, ça ne disparaît pas complètement. On écoute beaucoup la radio, qui est formidable et qui nous donne beaucoup de joie, de réjouissance et aussi de découverte. On écoute Musique et moi, et c'est un plaisir toujours. S'il fallait donner un morceau, une musique, J'aurais envie de te parler de Rosemary Stanley et Dom Lalena. Elles ressortent un nouveau disque qui s'appelle Ramage, qui est magnifiquement édité par son producteur. Une pure merveille avec des reproductions, avec les textes qu'elles chantent. Et j'aurais envie de dire que le premier de ce disque est parfait à écouter. C'est Sur la place de Jacques Brel. Il nous a été aussi conseillé, je tiens à le dire, par notre disquaire Jean-Philippe, qui est... Et tu sais l'importance que nous accordons à ces lieux qui sont des lieux de transmission, de conseils, d'échange. Et j'aurais envie de vous conseiller d'écouter Sur la place, Jacques Brel. Belle écoute, c'est un enchantement. Au revoir.
Sur la place chauffée au soleil, une fille s'est mise à danser. Elle tourne toujours pareil, aux danseuses d'antiquité. Mais sur la ville, il fait trop chaud. Hommes et femmes sont assoupis et regardent par le carreau cette fille qui danse à midi. Ainsi certains jours paraît une flamme à nos yeux. À l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu. L'amoureux l'appelle l'amour, le mendiant la charité, le soleil. Place vibrante d'air chaud, où pas même ne paraît un chien, ondulante comme un roseau, la fille bondit, s'en va, s'en vient, ni guitare, ni tambourin, pour accompagner sa danse, elle frappe dans ses mains, pour se donner la cadence, ainsi certains. Sur la ville, il fait trop chaud pour ne point entendre son chant. Des hommes ferment leurs carreaux comme une porte entre mort et vivant. Ainsi certains jours paraît une flamme en nos cœurs, mais nous ne voulons jamais laisser luire sa lueur. Nous et nous nous voilons les yeux, nous n'aimons point les réveils de notre cœur déjà vieux. Sur la place, un chien hurle encore, car la fille s'en est allée, et comme le chien hurlant à la mort, pleurent les hommes.
sur la place de Jacques Brel, interprété par Birds on a Wire dans leur dernier album Ramage. Journaliste, romancier, passionné de littérature, Patrick Poivre d'Arvor poursuit ses deux passions avec détermination depuis qu'il a cessé de présenter le 20h sur TF1. Il défend ardemment la littérature sur CNews avec son émission Vive les livres et nous a fait partager ses goûts musicaux dans Musique et moi en juin dernier. Le revoici dans cette période qui semble pour certains avoir arrêté le temps. Patrick Poivre d'Arvor dans Musique et moi.
Bonjour Elsa. Mon choix donc, concerto numéro 3 de Rachmaninov. Alors si j'écoute très régulièrement et même beaucoup plus régulièrement que naguère cette musique pendant le temps du confinement, c'est qu'évidemment ça me rappelle mon émission Vol de nuit et il se trouve que j'étais en train de trier des archives, des photos et surtout des vidéos de tous ces grands auteurs que j'ai pu interviewer, comme vous, chère Elsa, pendant votre émission. Et j'ai retrouvé donc des vraies pépites, aussi bien se retrouver avec le Clésio sur place à Albuquerque, avec Modiano, avec Julien Green, Claude Lévi-Strauss, Hervé Guibert, une émission entière de plus d'une heure et demie que je lui avais consacrée. Tout ça, ça m'a submergé de nostalgie. J'en ai assez rarement pour le journal télévisé, qui a été mon exercice quand même favori, fétiche, parce que c'est peut-être plus, je dirais, ça passe, voilà. Alors que ces émissions, bah, ça demeure, la plupart, certains de ces écrivains sont même partis. Et donc, j'ai grand bonheur à écouter cette musique qui me rappelle l'émission, bien sûr, donc l'émission Vol de nuit, qui me rappelle Rachmaninov lui-même. Il se trouve que ma sœur Catherine a écrit une biographie de Rachmaninov parce qu'elle avait épousé le petit-fils de Rachmaninov et que j'avais été dans cette maison en Suisse, sur les bords du lac de Lucerne, où il a vécu une grande partie de sa vie. Donc ça, voilà, c'est quelque chose de familial. Et puis le titre même de l'émission, Vol de nuit, bah, c'était tiré en grande partie de Saint-Exupéry, bien sûr. Et Saint-Ex, là aussi, familialement, c'était un peu un compagnon de la famille, c'était un ami de mon père, mon grand-père, Numa Castelin, qui était lui-même aviateur. Sa veuve, Consuelo, était l'une des meilleures amies de ma grand-mère, Gabrielle. Et donc, je l'ai bien connue, elle, évidemment pas connue, Saint-Ex, mais voilà. Donc, je vis avec mon petit monde grâce à ce troisième concerto pour piano de Rachmaninov.
Thank you.
Danil Trifonov interprète l'Allegro ma non tanto du concerto pour piano numéro 3 en ré mineur opus 30 de Rachmaninov avec le Philadelphia Orchestra sous la direction de Yannick Nézet-Seguin.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Ceux qui l'aiment la suivent sur son fil Twitter avec attention et auront sans doute, comme moi, envie de savoir comment se déroulent ses journées en ce moment. Et surtout, si elle a le temps d'écouter de la musique dans ce rythme nouveau qui bouscule absolument toutes nos habitudes. Anne Sinclair, donc, qui a fondé le Huffington Post France et qui est éditorialiste au JDD, égrène ses colères et lumières sur des informations qui nous auraient échappé, comme toujours et depuis toujours. Nous la connaissons, mélomane. Elle était d'ailleurs venue il y a 2 ans dans Musique et moi. La voici dans l'évocation de son confinement, sincère, exactement comme nous l'aimons.
Pendant des semaines, si j'ai curieusement du mal à lire, ce qui est assez rare, j'écoute beaucoup de musique qui me réconforte, qui me permet de m'évader, qui fait du bien aux angoissés dont je fais partie. J'ai toujours travaillé en musique, mais en ce moment, j'ai des rituels peut-être plus particuliers. Le matin, c'est le piano, de préférence des sonates, Beethoven par Barenboim ou Schubert par Adolupu. Et l'après-midi, surtout en fin de journée, c'est l'opéra que j'adore depuis toujours, depuis que je suis enfant. Et puisque Elsa, vous m'obligez à choisir, je crois que c'est Don Giovanni qui me fait le plus de bien. Parce que dans cet opéra, la joie de vivre et le drame alternent à tour de rôle et c'est exactement ce que nous vivons en ce moment entre la beauté de ce printemps d'avril et l'angoisse du soir qui vient avec les morts, les malades du Covid qui défilent, dans le décompte défile sur la télévision et, ou sur les, dans les médias. Et le léger, évidemment, c'est Finkel del Vino, c'est la Cidarem della Madonna, c'est Bati, Bati el Mazzetto, j'allais le chanter, mon Dieu. C'est tout ce qu'il y a de léger dans Mozart, enchanteur, délicieux, comme Cosi, comme les noces. Mais le dernier acte, c'est d'une beauté dramatique à couper le souffle. Il y a Elvira qui vient supplier, la terreur de Leporello, le duo incroyable entre le commandeur et Don Giovanni, c'est la rencontre d'un homme rattrapé par son destin. Alors bien sûr, comparaison n'est pas raison, et le coronavirus, on y est soumis par le hasard malheureux, tandis que Don Giovanni, il a tué lui-même, il a provoqué, il a forcé la mort à venir le chercher. Mais dans cette alternance de tempo, je passe avec Don Giovanni de la gaieté à l'angoisse, qui est celle, bien sûr, de la maladie de vos proches, mais surtout d'un monde inconnu qui vient. Alors, j'ai beaucoup d'interprétations différentes, celle de Giovanni avec John Sutherland, je crois, et Elisabeth Schwarzkopf est splendide, mais celle que je préfère, c'est celle qui s'invite au film de Lozé, dirigé par Laurine Mazel avec Ruggero Raimondi en Don Juan, José Van Damme, Teresa Berganza en Zerlin. Et c'est le plus beau rôle de Raimondi et j'adore son Viva la Libertà qui sonne comme un défi même à ce qui est inévitable. Alors voilà, disons que c'est le moment ou jamais de crier Viva la Libertà, no passaran, toute résistance possible. Voilà.
Oh. Oh!
un extrait de Don Giovanni de Mozart, interprété par l'orchestre et le chœur du Théâtre National de l'Opéra de Paris, sous la direction de Laurine Maazel. Médecin et romancier, dramaturge et scénariste de bande dessinée, Laurent Seixic se plonge dans les biographies de personnages marquants du XXe siècle pour nous rapprocher au maximum d'eux sous forme de roman. Les derniers jours de Stefan Zweig, par exemple, ou le cas Edward Einstein sont les plus connus. Il travaille en ce moment sur Kafka, et donc dans cette double intériorité de confinement et d'écriture, il nous a livré sa musique actuelle, celle d'un confinement qui essaye de se rapprocher de quelqu'un d'inconnu.
Le confinement, c'est en temps ordinaire le quotidien de l'écrivain. C'est un exil intérieur, un exil choisi, un enfermement du corps, seul garant de la liberté de l'esprit. L'écriture exige ce confinement, impose le travail solitaire. Le roman commande à l'auteur de se mettre en retrait du monde pour décrire le monde. C'est là le paradoxe étrange de la littérature, qui fait des écrivains les individus hors du temps, et pourtant plus à même de capter l'air du temps. C'est parce que l'écrivain n'est pas dans le présent, parce que l'écrivain écrit au passé, qu'il peut plus justement embrasser le contemporain. Un écrivain doit aimer la solitude, sinon il n'y a pas de livre. Mais en temps ordinaire, en temps de paix, ce confinement, cette solitude sont choisis par le romancier, et ils se font en opposition et à l'écart d'un monde extérieur jouissant et jubilant de sa pleine liberté. Ces temps-ci, et on ne peut parler de temps de guerre que si l'on a pleinement conscience que là, c'est la guerre conduite par un petit nombre d'individus contre les ravages d'un immense fléau sous le regard hébété et compatissant du plus grand nombre. Ce qui change, c'est ce parfum de tristesse qui flotte dans l'air et qui accompagne la détresse à la fois des soldats de cette guerre et de ses innombrables victimes. C'est cela qui fait que ce confinement-là est, même pour l'habituel salarié de la solitude, quelque chose de douloureux et quelque chose de stérile. Mais puisqu'il faut choisir une musique qui accompagne, ce sera les variations Goldberg de Bach, interprétées par Glenn Gould. J'ai toujours une musique qui m'accompagne dans l'écriture de mes romans, un peu comme une musique peut vous accompagner dans un film. Mon prochain roman a Franz Kafka pour sujet. Et le génie de Glenn Gould, son goût de la perfection, sa tentation du retrait, son appétence pour la solitude, son rêve chimérique d'absolu, son étrangeté, son retrait du monde au service de son art, sont l'exact reflet du Franz Kafka que j'aimerais écrire. Thank you.
Glenn Gould dans les variations Goldberg de Bach dans la version 1982. Macha Merrill, nous l'avons enregistré juste avant le confinement. Voilà pourquoi nous n'avons pas encore eu la joie de vous faire entendre son rapport si long et fort à la musique. Et dans sa force vitale époustouflante, quand je lui ai proposé de participer à cette émission de confinement, elle a évidemment, j'ai envie de dire, et immédiatement répondu présente. La voici donc, dans toute sa force qui inspire, Macha Merrill, dans Musique et moi.
Les premiers temps du confinement, je trouvais ça rigolo. Comme si on avait sifflé un arrêt de jeu, que la folie de la course est perdue à l'activité s'enrayait. Puis est venu le temps de la réflexion, de la vie intérieure et de la sélection des priorités, salutaires encore. Mais maintenant, nous commençons à être touchés directement. Les morts sont des proches, des amis. Le rapport à notre propre finitude se pose. Je ne suis pas dépaysée. Depuis le départ de mon mari Michel Legrand, je côtoie le monde d'ailleurs constamment. Pour tous les artistes, ce monde d'ailleurs est source d'inspiration, de création. Les requiems sont les œuvres les plus audacieuses de tous les musiciens. Aussi, en ce moment, j'écoute sans tristesse ni nostalgie, mais avec beaucoup de concentration, le Messie de Handel. Bon, c'est pas très original, mais c'est d'une beauté extraordinaire. Ma version, c'est celle de Christopher Hogwood, un vieux CD, et dans la deuxième partie, j'aime beaucoup le 16e ou le 21e couplet. Il y a quelque chose de douloureux dans cette musique, mais aussi de rageur et de volontaire, pour défier la puissance de la mort par la beauté et par l'espoir. Ça reflète bien l'état d'esprit dans lequel je suis en ce moment. La musique et moi, la musique qui ne remplace pas, mais qui apaise. Je vous embrasse, Elsa.
Christopher Hogwood interprète avec l'Academy of Ancient Music et le chœur de la cathédrale du Christ d'Oxford. Hallelujah, un extrait du Messie de Handel.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Il dirige l'Opéra Comique et les Bouffes du Nord. Olivier Mantei jongle avec beaucoup de talent d'un univers à l'autre, programmant des spectacles toujours surprenants, souvent beaux et inattendus, dans un cas comme dans l'autre. Fidèle à cette image insaisissable, je dirais, qui lui va fort bien et l'amène à nous surprendre toujours, il a accepté de se prêter au jeu du Musique et moi de confinement, lui dont l'activité de télétravail n'a pas laissé beaucoup de temps et de place au silence. Olivier Mantei.
Chère Elsa, chers auditeurs, bonjour. En ces jours de confinement, j'ai pensé à une œuvre que j'aime beaucoup. Il s'agit d'une toccata. Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure œuvre à écouter lorsque l'on est confiné. Vous en jugerez par vous-même. Méfiez-vous néanmoins. C'est un petit chef-d'œuvre. C'est la 13e étude pour piano d'un cycle qui en contient 18, composée entre 1985 et 2001 par Ligeti. Son titre est emprunté à Cantor. Il s'agit de l'escalier du diable. Et pour cause, vous verrez, on a l'impression d'une ascension qui nous laisse sur place. Où va donc se nicher la sensibilité, écrivait Berlioz en voyant son voisin mathématicien ému aux larmes. Eh bien, voici une formule mathématique propre à déclencher les tourments de l'âme les plus obsessionnels. Je recommande la version de Pierre-Laurent Aymard et je vous souhaite bon courage à tous. Thank you.
L'escalier du diable de Ligeti, interprété par Pierre-Laurent Aymard. L'écrivain et auteur à succès de très nombreux best-sellers, Marc Lévy, avait participé en juin dernier à Musique et moi. Il s'était révélé non seulement grand mélomane, mais pianiste. Son dernier roman, Ghost in Love, racontait l'histoire d'un pianiste concertiste international un peu perdu dans sa vie d'aujourd'hui, qui renouait avec un passé parfois manqué grâce à l'apparition du fantôme de son père. Toujours chaleureux, charmant, généreux et dans le lien, il a immédiatement accepté de répondre à l'appel et nous livre son récit de New York, où il vit depuis maintenant longtemps, journal intime de confinement de Marc Lévy, dans cet ailleurs qui paraît aujourd'hui encore plus lointain. Un grand merci donc à lui.
Bonjour Elsa, depuis New York, c'est quelques mots. Vous me demandez ce que j'écoute en cette période de confinement. Eh bien, j'écoute et réécoute en boucle l'album de l'immense violoncelliste chez Cook & Emerson qui est accompagné du London Symphony Orchestra. L'album s'appelle Elgar. C'est un album magnifique, fait de poésie, de nostalgie, mais en même temps de beauté, pluriel. Au sein de cet album, un morceau en particulier, variation sur un thème original en opus 36, Enigma numéro 9. Et puis, vous me demandez quelques nouvelles de New York. Eh bien, que vous dire d'autre? La ville est méconnaissable, elle est totalement silencieuse, elle vibre au son des sirènes d'ambulance que nous entendons régulièrement, elle subit un bilan assez effroyable et il règne au sein de la population et au sein de la ville une atmosphère mortifère qui nous pèse à tous. Mais en même temps, c'est une ville phénix, c'est une ville qui s'est toujours relevée de toutes ses blessures et qui a su surmonter tous les moments difficiles. Il y a une résilience incroyable chez les New-Yorkais. Donc nous allons survivre à tout ça et reconstruire pour le mieux. À titre plus personnel, je me souviens d'une conversation menée avec un chroniqueur philosophe il y a de ça de nombreuses années qui m'avait demandé quelle était ma définition du bonheur. Et je lui avais répondu très spontanément, pour moi le bonheur c'est les autres. Je me souviens de son air étonné et de la façon dont il m'avait dit « Mais alors vous, au milieu de tout ça, quel est votre bonheur à vous ?» Et j'avais insisté en lui disant « Mon bonheur c'est les autres ». Eh bien, vous voyez, peut-être 15 ou 20 ans ont passé depuis cette rencontre, et pour la première fois de ma vie, en cette période de confinement, j'ai l'impression d'avoir eu raison sur un point. Ça ne m'est pas arrivé très souvent. Et ce point, c'était que, effectivement, le bonheur, c'est les autres. Alors, je n'ai qu'une seule envie et qu'un seul rêve, c'est de renouer avec ce bonheur le plus vite possible, renouer avec les autres. En attendant, je voulais vous souhaiter à vous, ainsi qu'à tous vos auditeurs, d'être en bonne santé et de passer la meilleure journée possible, en pensant aux rêves que nous réaliserons tous ensemble demain. Je vous souhaite une excellente journée.
C'était Musique et moi, de confinement numéro 2. Merci à toutes ces personnes qui ont accepté de participer et de nous livrer leur musique d'émotion de ces temps difficiles. Merci à vous tous de nous avoir suivis. J'espère qu'elles vous ont apporté un peu d'amour et de réconfort. Merci à Jean-Charles Dieval qui était à la réalisation, Marie-Ferdinand attachée de production. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Musique et moi de confinement. D'ici là, une très belle semaine.
À réécouter sur francemusique.fr.